Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1147, en ce samedi 23 avril. Marc Loison avec vous jusqu'à 15h, avec le disque du mois, Fred Chapelier, l'album Straight to the Point chez Dixie Frog, toujours. Et puis quelques Frenchies en première heure, on aura des nouveaux enregistrements de Ahmed Mouissi sur son album Une Pinte de Blues, également Litfoot Rivet. Et puis la rubrique Beatles Song Story numéro 4, avec Jackie Emery qui insistera sur le côté rock and roll du groupe. Auparavant, on aura rendu visite en Suède à Sven Zetterberg. On passera un petit moment aux États-Unis également avec en Louisiane Kenny Neal et puis un petit peu plus à l'ouest The Love Light Orchestra featuring John Nemeth. Et puis on terminera cette première heure avec un hommage à Philippe Carreau qui vient de nous quitter. Philippe Carreau dont j'ai récupéré cette interview qu'on avait faite ensemble le 14 septembre 2019. Voilà Philippe. En deuxième heure, l'invité de la semaine, c'est Jean-Pierre Vignola pour le premier volet de ses souvenirs de tourneur, d'organisateur, de producteur. Jean-Pierre Vignola, avec qui on passera de 14h à 15h un grand moment, accompagné des musiques de Ethel James, Muddy Waters, John Lee Hooker, Luther Allison, Lionel Hampton et Ben Webster avec Coleman Hawkins. Allez, en attendant, place au disque du mois, Straight to the Point, c'est monsieur Fred Chapelier. Voici I'd Rather Be Alone. I'd rather be alone. Si c'est comme ça, je préfère encore être tout seul. Fred Chapelier, l'album Straight to the Point chez Dixie Frog Records. 5 exemplaires à gagner pour vous sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. On poursuit avec un truc qui n'est pas encore sorti et que Litfoot Rivet m'a envoyé pour vous. Voici Attends-toi au pire. C'est un nouveau titre en français que je vous laisse découvrir. Litfoot Rivet. Eh oui, la chance tourne, voilà, attends-toi au pire. Voici l'augure de Litfoot Rivet à travers l'un de ses morceaux en français. La sortie de l'album est à suivre. Et puis, on va découvrir ça avec grand plaisir. Il y en a deux autres que je pourrais vous faire découvrir dans des prochains Sweet Home Chicago. En attendant, voici Ahmed Mouissi. Je chante.
instincts, je dégaine mon micro. Je chante. Je chante.
Ahmed Mouissi, ça fait partie de son nouvel album qui s'appelle Une pinte de blues à suivre. On continue en Europe avec un petit peu plus au nord, en Suède, monsieur Sven Zetterberg, qu'on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions à retrouver sur un album posthume enregistré en 98-99, paru enfin le jour des 70 ans que Sven Zetterberg aurait dû fêter. Il nous a quittés en décembre 2016. La vie en a décidé autrement. Cet album Rain On, dont on a déjà découvert le titre album, en voici un autre, et puis il y aura dans des prochains Sweet Home Chicago d'autres extraits. Ça s'appelle Easy Come, Easy Go, I Wish That I Could Fall In Love Again, monsieur Sven Zetterberg.
That I could fall in love again. She looked so innocent, just like a child. Well, you got secrets hidden down inside. You do someone in and you lose a friend. And I wish that I could fall in love again. Yeah. You're 4x7. And that's 28. You come back now, and you're too late. I used to love you so much back then, and I wish that I could fall in love again. Oh. For the train you were at, but you did something that got stuck inside. You know a rooster really loves his hen, and I wish that I could fall in love again. Back then, and I wish that I could fall in love again. Love again. Fall in love.
Monsieur Sven Zetterberg avec cet album qui s'appelle Rain on the Lost Session chez Pama Records. Merci encore à Bo Carlson pour la réalisation de cet album. Voici l'heure des Beatles. Beatles Song Story par Jackie Emery, épisode 4. Ça va, Jackie ?
Oui, ça va très bien, autant que faire se peut par ces temps de peur et de désarroi.
Eh bien, on va se replonger dans l'univers des Beatles. À chaque émission, une chanson et puis une thématique. Aujourd'hui, tu as choisi quel titre ?
J'ai choisi I'm Down, pour nous rappeler que les Beatles sont aussi un groupe de rock'n'roll.
Et bien sûr, parce que leur principale influence, est-ce que tu vas me contredire si je te dis que c'est Chuck Berry en premier ?
Ah oui, Chuck Berry, absolument. Lennon disait, si le rock'n'roll ne s'était pas appelé rock'n'roll, il devrait s'appeler Chuck Berry.
Exactement. Alors ce titre, I'm Down, on écoute la version originale tout d'abord ?
Oui, la version des... Alors, je n'ai pas mis dans cette émission... Je l'annonce tout de suite, de cover sur cette chanson. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui était suffisamment différent. Mais pour bien comprendre l'esprit de cette parenthèse sur cette chanson et sur l'esprit du rock'n'roll, j'ai préféré mettre la version de Long Tall Sally, interprétée par Paul McCartney en particulier, qui déchire tout.
On écoute I'm Down, les Beatles.
You tell lies, thing and I can see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down.
Les Beatles avec ce titre I'm Down, on est en plein rock'n'roll avec Jackie dans Beatles Song Story et tu as choisi non pas de nous proposer une cover parce que c'est un petit peu la coutume maintenant dans cette émission mais tout simplement de nous replonger dans l'univers rock'n'roll des Beatles avec un deuxième titre tout à l'heure mais je te laisse nous dire pourquoi, comment les Beatles ont été imprégnés de rock'n'roll des pieds à la tête.
Ah oui, oui bien sûr, absolument, ils écoutaient Buddy Holly, Chuck Berry, Gene Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley, enfin voilà c'était leur tasse de thé et quand ils vont partir à Hambourg, la majorité des morceaux qu'ils jouent sur scène sont des reprises, et donc des reprises des rock les plus célèbres comme Roll Over Beethoven, Long Tall Sally, etc. Donc c'était vraiment leur culture musicale, avec le blues aussi d'ailleurs.
Bien sûr. Petite parenthèse, Jackie, on se souvient peut-être qu'en 75, un certain John Lennon en solo a sorti un album intitulé Rock'n'Roll qui faisait complètement référence à cette époque-là. Est-ce que ça veut dire qu'entre deux, ils ont perdu leurs racines quelque part ? Ils sont partis dans plein de directions, on est d'accord, à partir dans les années 66, 67. Et voilà, il fallait revenir aux sources à ce moment-là pour John Lennon, non ?
Bah, écoute, je crois pas que... Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir quand on écoute la discographie des Beatles. On s'aperçoit qu'à chaque moment, dans chaque album, même les albums les plus psychédéliques qu'on pourrait considérer comme Sgt. Pepper's ou Magical Mystery Tour, ils ont toujours glissé dedans des choses qui nous rappellent cette culture rock. C'est vrai que si on pense aux Beatles, ils sont partis du rock et après ils ont exploré des domaines que personne n'avait exploré jusqu'ici. Ce qu'il faut bien comprendre avec les Beatles, c'est qu'à partir du moment où ils décident d'arrêter les concerts, ils se concentrent uniquement sur la création. Donc là, tu sais que quand un groupe fait des concerts, c'est très chronophage. Là, ils ont le temps, ils se posent. Mmh. Et en plus, commence à arriver du tas de matériaux qui n'existaient pas avant. Il faut voir le jour où c'est filmé, où Lennon découvre la stéréo, c'est un truc assez fort. Donc ils n'ont jamais perdu ces racines de rock'n'roll. Quant à l'album Rock'n'Roll, puisque tu m'en parles de John Lennon, c'est un album spécifique qui a été fait un peu pour payer une facture. Mm-hmm. Parce que John Lennon avait, dans un des interviews qu'il avait fait, avait précisé qu'il avait repris la phrase d'une chanson de Chuck Berry, donc les avocats lui sont tombés dessus. Et donc comme il avait un peu en prévision de faire un album retour aux sources, il a interprété plusieurs chansons pour que les droits d'auteur retombent dans la poche de qui de droit. Donc voilà, cet album, il est merveilleux. Il est merveilleux de son. Il est produit par Phil Spector. Alors, je ne suis pas grand fan, moi, de Phil Spector et de tout son. Mais sur cet album-là, ça marche.
Il y a toujours cette dualité, tu le disais la dernière fois, entre les Stones et les Beatles. Il y a aussi cette dichotomie entre les gens qui adorent le son Phil Spector. On pense, par exemple, à I Can't Tina Turner, River Deep Mountain High, qui est une merveille. Et puis, les gens qui détestent ça, parce que c'est bien trop truqué, c'est bien trop trafiqué. Toi, tu n'es pas trop fan au départ, mais quand même, ce disque de John Lennon...
Je dirais qu'il y a certaines réalisations de production de Phil Spector qui sont vraiment très bien. Lennon ne voyait que par Phil Spector. Hein. S'il avait menacé de lui mettre une balle dans la tête un jour, il ne voyait que par lui. Néanmoins, par exemple, ce que Phil Spector a fait sur l'album Let It Be, c'est raté, et peut-être même volontairement raté. Ah. C'est pour ça d'ailleurs que les Beatles ressortiront une version, McCartney ressortira une version originale de Let It Be.
Revenons à nos moutons avec ce titre I'm Down, qui illustre le côté très très rock'n'roll des Beatles. Et tu as choisi un autre titre qui s'appelle Long Tall Sally, emprunté à des pionniers du rock'n'roll.
Oui, absolument. En fait, I'm Down, c'était ce qu'avait dit... McCartney disait que... Et ça me paraît juste, ça. Ça paraît simple de faire une chanson sur trois accords. Hein. Mais en fait, il n'y a rien de plus compliqué de faire un bon truc sur trois accords. Et tout le monde n'est pas Little Richard, tu vois. Les Beatles avaient rencontré pratiquement même avant leur succès Little Richard. Et Little Richard avait été subjugué de voir les versions, déjà qu'on reprenne ses chansons, et que les versions qu'ils en faisaient. Donc en fait, McCartney était assez satisfait du résultat d'un morceau qui... Ne cherche pas les complications, hein. Ces trois accords, il doit y avoir du rythme, il doit y avoir des mots qui sonnent. McCartney disait que quelquefois, à un mot juste, il préférait un mot qui sonne. Hein. Mmh. Il était très content du résultat de I'm Down. Et il dit que c'est avec I Saw and Stand in There, c'est les deux meilleurs rocks qu'ils aient fait dans cet esprit-là, quoi. Tu vois. Et puis, je voudrais préciser que ce morceau n'existe sur aucun album. Il était sur la face B du 45 tours Help, mais on le trouve dans une excellente compilation qu'on trouve en 1976 qui s'appelle Rock'n'Roll Music.
Ah oui.
Beatles Rock'n'Roll Music, il y a deux volumes.
Eh oui.
Et ça, c'est une excellente compilation pour celui qui aime les Beatles et qui aime le rock. Elles sont toutes dessus. Et vraiment, c'est une très belle compile. Voilà. Quant à McCartney et Lennon, ils aimaient bien avoir un morceau qui finisse le concert de manière déchirée. D'ailleurs, I'm Down clora le dernier concert de leur tournée aux États-Unis. C'est filmé, on le voit. C'est là où Lennon se déchire, il est à l'orgue et il joue à la Jerry Lee Lewis, il met le pied sur le clavier, à tel point que George Harrison est tellement mort de rire qu'il ne peut même plus jouer. Voilà. Mais leur dernier concert au Klondike Park, ils choisiront quand même Long Tall Sally. Mais les Beatles cherchaient toujours un morceau pour finir comme des fusées. Voilà.
Long Tall Sally, les Beatles. Les Beatles en rock'n'roll, et puis tu le disais, c'est toujours même plus qu'en filigrane. Dans tous leurs albums, on retrouve du rock'n'roll dans les Beatles. Ils sont multi-inventifs par rapport à toute cette période. On va dire à partir de, tu vas me dire si je me trompe. Allez, 1966, un peu l'année charnière pour la créativité des Beatles, pour aller vers d'autres horizons. Si tu sais avant ou après.
Ouais. Je ne vais pas me fâcher avec les historiens des Beatles parce que tout le monde a un petit peu son idée sur le sujet. Ce que je pense, c'est qu'on voit apparaître dès le départ, même dès les premières chansons assez gentilles, dirons-nous, les chansons d'amour et les rocks qu'ils font dans les tout premiers morceaux, des tout premiers albums, on voit déjà apparaître certaines choses qui sont pour l'époque assez originales. Après, il va y avoir quand même un tournant avec Rubber Soul. Et après, à mon avis, c'est mon album préféré des Beatles.
Donc on est en 66.
Revolver, voilà, ouais. Exactement. Ouais. Et là, sur Revolver, on est. Et d'ailleurs, on est très surpris. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu vois l'éclectisme de la musique des Beatles du départ jusqu'à l'arrivée, si on part de She Loves You en arrivant à I'm the Walrus, par exemple, plus psychédélique, les fans, ils ont toujours suivi. Ils n'ont jamais décroché. C'est assez étonnant, ça, tu vois. Donc, du coup, mais le rock'n'roll reste quand même présent, toujours, dans les albums des Beatles.
Merci, Jackie. On se retrouve dans le prochain numéro avec un titre, un nouveau titre que tu as déjà choisi.
Absolument. Les deux prochaines émissions que j'enregistrerai rendront hommage à George Harrison, parce qu'il faut quand même bien parler de George. Il n'y a pas quand même que Paul et John. Et donc, je prendrai deux morceaux qu'il a composés. Un qui s'appelle Taxman, qui est sur l'album Revolver, et le second qui s'appelle Something, qui est sur l'album Abbey Road.
Merci, Jackie. À très bientôt.
Salut, Marco.
Retour de la rubrique Beatles Song Story par Jackie Emery le 7 mai prochain. On poursuit avec un Américain, Monsieur Kenny Neal, qui est en train de sortir un album qui va sortir pour la France le 20 mai prochain. Il s'agit de Straight From The Heart chez Roof Records. Voici It's Been So Long.
It's been so long since I seen my baby face. I'm just sitting and I'm waiting, y'all. Seems like no one can take. I can't sleep at night. I just can't nap through the day. I can't go on no longer. Oh, living this way. I even miss your smile, baby, yeah. All the things we used to do. But that's all right, that's all right, darling. Oh, I'm still in love with you. And it's been so long since I've seen my baby face. I'm just sitting and I'm waiting, oh. Seem like no one can take her.
C'était It's Been So Long, Kenny Neal. On poursuit toujours aux États-Unis avec ce groupe. Leave the Light On, c'est The Love Light Orchestra avec John Nemeth.
my wheel. Ain't got time to kiss and hug. She ain't got time for love. 'Cause my heart is an open book. She won't give me a second look. She got me hanging round like a fish on a hook. 'Cause my heart is an open book.
Mon cœur est un livre ouvert, Open Book, The Love Light Orchestra. Je voudrais maintenant, avec amour, qu'on partage un petit moment avec Monsieur Philippe Kerwoe, qui vient de nous quitter. Voici un extrait de Blue Stories, une reprise de Led Belly, que vous connaissez tous, Led the Midnight Special. Philippe Kerwoe.
When you wake up in the morning, you hear that fucking bell. And they march you to a table, you see that same old thing. And no food on the table, and no pork in the pan. But you better not complain, or you're in trouble with a man. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me. Yonder comes Miss Rosie, hind the world did you know. By the way she wears a apron, the car rather close. Umbrella on her shoulder and papers in her hand. She comes to see the governor, she wants to free her man. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me.
You down, and the next day after you are prison bound. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me. Let the midnight special shine your light on me. Let the midnight special shine your ever-loving light on me.
Voilà ce titre de Lead Belly, popularisé par Creedence Clearwater Revival et ici interprété par Philippe Caruso sur l'album Blue Stories qui était sorti en 2019. Et c'est le 14 septembre 2019 que Philippe avait accordé sa dernière interview à Sweet Home Chicago. La voici.
Philippe Caruso, ça fait partie de cet album qui s'appelle Blues Stories. J'ai la joie et le plaisir de passer cette émission avec plein de belles personnes. Il y a eu Jacques Picard, il y avait Paul Persson, il y avait Mathieu Pesquet et puis maintenant il y a Philippe Caruso. Bonjour Philippe.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, je vais très bien.
Très bien. Ah ben, écoute, quand on te connaît, ce sont deux mots qui ravivent. Franchement, voilà, je suis très content d'entendre ça. Tu vas très bien, tu revis, on peut dire, non ? C'est ça ?
C'est exactement ça.
Est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux nous retracer brièvement ton parcours ? Tu viens de Normandie, tu n'habites plus en Normandie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu as quitté la plus belle région du monde ?
J'ai quitté ma région d'origine, oui.
Ouais.
Et puis la vie m'a emmené un peu partout en France. Et puis là, depuis ces 5 dernières années, je suis fixé dans le Berry.
Voilà.
Et puis, musicalement, j'aime à dire que j'ai commencé ma carrière comme joueur de blues. Et la vie a fait de moi un bluesman. Pour moi, il y a des nuances.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'être bluesman de façon contemporaine, en 2019, en France, pour toi ? Quelle est ta définition, Philippe ? Je crois que chacun a la sienne, en fait.
Oui, chacun a la sienne, bien sûr. Pour moi, la différence entre joueur de blues et bluesman, c'est-à-dire que bluesman, c'est s'engager dans la vie, pas seulement dans la musique. Le blues, c'est une musique où on ne peut pas faire semblant.
Ouais.
C'est mon opinion. Tu peux pas tricher, je veux dire. Les clones, les pseudos, tu le vois sur scène tout de suite, ça swing pas, ça sonne pas, il y a de l'esbrouffe. Mais un bluesman, il prend son piano, sa guitare, son harmonica, il fait 3 notes, c'est tillé, quoi.
Et donc, Philippe, toi, tu te qualifies comme authentique bluesman français, interprète de titres américains ?
Alors, j'essaye d'être le plus authentique possible dans mes reprises. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, oui, interprète. Ça, c'est quelque chose que je revendique beaucoup. Je ne suis pas très bon compositeur. J'ai du mal avec ça. C'est une démarche encore qu'intellectuellement, je ne suis pas prêt à franchir.
Alors, pour aller plus loin avec ça, parce que intellectuellement, c'est quelque chose qui te... Tu as du mal. On en avait déjà parlé il y a longtemps. Mais pourtant, la maturité, elle est là. La maîtrise, elle est là, bien évidemment. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin dans la composition ?
Eh bien, je vais te dire très humblement et très honnêtement, le respect des autres.
Ouais.
J'ai eu la chance de rencontrer au mois de juillet dernier Francis Cabrel. J'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec lui. Et quand je vois le niveau d'écriture de gens comme ça...
Ah bah oui, mais voilà.
Ça, je me dis, mince, que je peux pas mieux faire. Je peux même pas faire aussi bien, c'est ça, quoi, tu vois.
Non.
Donc, par contre, interpréter, ça je sais le faire.
Ouais.
Mais maintenant, peut-être un jour, j'aurai cette maturité, comme tu dis, ou cette volonté d'écrire des choses, parce que j'aime beaucoup et comprendre ce que je chante.
Ouais.
Et là, quand tu as des calibres comme ça, des Brel ou des Cabrel, ou des... même Paul, hein, dans ses textes, là, j'écoutais le truc blessure, mais il y a 3 phrases qui m'ont heurté en plein vol, parce que c'est exactement ça, quoi. Tu t'enterres pas tes blessures, tu les assures.
Exactement, tu les assures, voilà. Tu vis avec.
Voilà,
Paul Persson, quelqu'un qui écrit fabuleusement bien, et en français, il y a beaucoup de gens qui disent que le blues, ça se fait en américain, enfin en anglais, et puis pas en français. Bah, je pense que Paul Persson, c'est l'antithèse,
ouais.
Il y en a d'autres, hein. Il y a quelques
autres. Avant lui, il y avait Bill, il nous a montré la voie, quoi, Bill de Rennes,
ouais,
c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et toi, moi, quand je vois cette exigence qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, j'ai du mal à franchir le pas.
Alors l'exigence vis-à-vis de toi-même, toi tu l'as eu pour d'autres horizons, j'ai envie de dire. D'abord tu as changé de région, tu as changé de vie, tu as eu des pépins de santé, et puis tu t'es reconstruit peu à peu, et là où tu en arrives en 2019, ça, c'est pas loin de la félicité quand même, ce qui t'arrive là. L'amour
ça m'a, toutes mes, comme tu dis, mes pépins de santé, on va même les mettre les points sur les i, mes très gros ennuis de santé,
bah oui,
m'ont fait réfléchir à... qui je suis et qui je veux être et qui je ne veux plus être.
La conclusion, c'est...
La conclusion, c'est je vis au mieux chaque jour et en essayant de vivre le mieux possible avec les gens que j'aime, de ne pas tenir compte de la connerie autour de moi. Si tu veux, je refuse la morosité ambiante.
Alors ça, c'est compliqué. Puis, je t'arrête là. La connerie autour de soi, je crois qu'on est obligé de vivre avec. Hein,
Oui, mais je ne la vois pas. Enfin, j'en tiens pas compte, si tu veux.
D'accord.
Je me lève pas le matin en me désolant de la connerie. Sinon, on n'a pas fini, comme disait Paul. Sinon, tu te tires une balle tout de suite.
Ouais.
Donc c'est réorienter ses priorités. Et moi, c'est vrai que vivre avec les gens que j'aime, faire le métier que j'aime, jouer sur des guitares que j'adore, ça, bref, ça, c'est des petits détails quotidiens, mais ça enrichit ma vie, quoi.
Ben, c'est vrai que, parce que, on va pas le cacher aux auditeurs, Philippe, moi je te connais depuis plus de 15 ans, je sentais plutôt quelqu'un de...
Tu peux même dire presque 30 ans, oui.
Oui, ben voilà, tant que je sais plus, fin des années 90, je crois, hein, voilà, ça fait plus de 20 ans en tout cas.
Plus de 20 ans, voilà.
Et moi, je voyais en Philippe Clairvaux un révolté de la vie, quelqu'un qui voulait changer les choses. C'est plus tout à fait ça maintenant, en 2019.
Ben non, j'étais grande gueule, j'étais plus jeune, j'avais 20 ans de moins, j'étais pétri de certitudes, enfin, et puis de grandes illusions. Et maintenant, j'ai toujours des certitudes, j'ai toujours des choix que j'assume.
Ouais.
Tu parlais tout à l'heure d'écologie, de choses comme ça. Il y a des choix de vie. Et maintenant, je suis beaucoup moins révolté parce que la révolte ne mène pas à grand-chose. Et au lieu de le crier comme avant, par exemple, tu vois, je suis écœuré de la façon dont certaines enseignes traitent leurs employés, ben, moi, je bouge pas, je me révolte plus. Pour ne pas le citer, mais des marques d'Intermarché traitent leur personnel comme du bétail, ben, je fais mes courses ailleurs, quoi. C'est facile. Si tout le monde fait ça, on peut changer des choses.
Ben oui, comme disait Coluche, il suffirait qu'on arrête d'acheter pour que ça se vende plus. Hein. C'est
exactement ça.
C'est une démarche individuelle. Donc maintenant, tu n'essayes pas forcément d'entraîner les gens dans ton sillage. Quoique, ça serait le genre de choses possible, par exemple, par l'écriture. On parlait de Paul Personne. Bon, il ne demande pas aux gens de mettre un gilet jaune, mais quand même, voilà, il y a des choses qui sont dites, écrites, chantées, qui restent, qui vont rester, parce que, par exemple, la discographie de Paul Personne, c'est quelque chose qui continue à évoluer, mais il a marqué son territoire par certaines pierres tout au fil de sa carrière discographique. Ça aussi, ça serait le genre de choses possible pour toi. Ça t'intéresse plus, ça, cette démarche?
Ouais, c'est un message que j'arrive à transmettre quand je fais mon spectacle Histoire de Blues, d'ailleurs,
voilà.
C'est le reflet
en live.
Du disque en live, voilà. Et quand je fais ce spectacle-là dans les théâtres ou les lycées ou les trucs comme ça, j'insiste bien sur des conditions d'esclavage, d'où ça vient, pourquoi, la misère humaine. Je leur dis que, aux jeunes qui viennent m'écouter dans les lycées, je leur dis, en 1930, ils avaient la soupe populaire aux États-Unis, et ben en 2000, on a le resto du cœur. Rien n'a changé.
Non, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur d'être une sorte de passeur. Tu parlais des lycées, il y a pas mal de bluesmen un peu partout, aux États-Unis, en France, qui font ça, qui vont voir les jeunes avec cette musique un peu démodée, un peu désuète. Pour eux, évidemment, ça leur parle pas forcément au départ. Et le fait que le musicien, comme ça, descende de son estrade et vienne leur parler, c'est quelque chose qui les touche, d'après toi ?
Oui, et puis moi, ça me tient à cœur, d'une part. Et puis ça les touche. La dernière anecdote que j'ai à ce sujet-là, j'ai joué dans un lycée à Amboise. Et j'ai été étonné, complètement étonné, quand dans le public, il y avait quelques jeunes gens, des garçons et des filles originaires des Antilles. Et quand j'ai abordé le sujet de l'esclavage, je les ai vus être gênés. Bon, ils m'ont laissé faire mon spectacle, ils ont participé, tout. Et à la fin du spectacle, je suis allé les voir, je leur ai dit, il y a quelque chose qui vous gêne. Et il y en a un qui m'a dit, mais c'est tabou, on ne parle pas d'esclavage.
Oui, c'est tabou.
On en parle de manière revendicative, pour ce que c'est Aimé Césaire appelé la négritude, c'est comme s'il y avait une honte, tu vois. Quand je leur explique un peu les origines du blues et tout, du coup, ça leur donne une autre vision de la chose.
C'est peut-être aussi une façon de dépasser tout ce passé très très lourd, hein, 4 siècles d'esclavage en Amérique. C'est quelque chose qui, à mon sens, qui sera jamais égalé, bien évidemment, parce que même si l'homme est aussi grand qu'on le dit, on est en droit de penser qu'il y aura plus jamais ça, malgré certaines réalités. Je pense que la Libye, par exemple, c'est un territoire d'achat d'esclaves en 2019, non ?
Oui, tout à fait. Complètement à l'inverse, là, au mois de juin, j'ai joué le spectacle Histoire de Blues et j'ai, comment dire, dans ce public, il y avait 2 jeunes Américains blancs, trentaine d'années, et à la fin, parfaitement bilingues, hein, et à la fin du spectacle, ils sont venus me voir, et il y en a un qui s'appelle Tom, il m'a dit, Philippe, je voulais te dire merci, je lui ai dit, de rien, avec plaisir, pourquoi ? Il me dit, parce que j'ai appris des choses sur ma propre culture. Il me dit, moi je suis blanc du Tennessee, et bien, il y a des choses qu'on ne savait pas.
Un Américain qui te dit ça ?
Oui, un Américain qui me dit, j'ai appris des choses sur ma culture.
Ouais.
Faut qu'il vienne au milieu du trou du cul du monde dans le Lot, assister à un concert d'un Français avec son anglais approximatif, et puis il me dit, j'ai appris des choses, parce que dans le Tennessee, dans le milieu d'où il vient, White Anglo-Saxon Protestant, là, tu vois, le milieu WASP, on ne cause pas de l'esclavage. On a tué, on a violé, on a Il y a des noirs, mais on n'en cause pas. C'est passé, ça y est. Ils ont eu leur droit civique, on n'en cause plus.
Ça, ce témoignage-là, j'ai retrouvé dans d'autres bouches, Philippe, je confirme. Le fait d'être un interprète, on en parlait tout à l'heure, alors on a écouté Let the Midnight Special, Led Belly, par exemple, ça te permet de quoi? De te réapproprier ces chansons-là ou de les interpréter avec le respect dû au créateur? Quelle est ta démarche exactement?
Alors, ma démarche, elle est d'abord, faut que j'aime la chanson. Après, ouais. La jouer comme le mec l'a enregistré, c'est une démarche qui ne m'intéresse pas. Ce que je dis toujours en rigolant, mais je le pense vraiment, si tu as envie d'entendre l'original, achète le disque du gars.
Voilà, donc Philippe Kerwood n'est pas un coverman.
Je ne suis pas un coverman. Ah non, d'ailleurs, on pourra en parler de sur les groupes vieux, cover et tout. Non, je ne suis pas un coverman, je suis un interprète. Après, j'essaye de... Des fois, je m'amuse, notamment, je sais que je joue une chanson sur scène de Robert Johnson. Et je me suis plus à imaginer des rencontres qui ne sont pas produites. Par exemple, qu'est-ce que ça aurait pu donner cette chanson si Robert Johnson avait rencontré Johnny Hooker? Et du coup, ça donne une chanson complètement nouvelle avec cette basse répétitive boogie de John Lee.
Tu penses à Love in Vain?
Pardon? Ah non, c'est là, peut-être je l'ai fait façon plus... non, je pense à... Comment dire Rolling and Tumbling.
Oui, donc la reprise de Muddy Waters, en fait.
Oui, la reprise de... Oui, voilà.
Résonateur pour l'enregistrement de ce morceau,
oui.
Philippe?
C'est mon national, oui.
Ouais.
J'y viens de plus en plus d'ailleurs, ces guitares-là, parce que c'est pareil, c'est émouvant, au sens pris du terme.
Alors, avec tricône, c'est ça?
Non, celui-là, c'est pas un tricône, c'est un stylo, un single cone. Quoi.
D'accord. Au niveau du chant, alors, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, on se connaît depuis longtemps, la voix, elle a également changé. Je pense, et je regardais la tracklist en préparant cette émission, je pensais plutôt à Skip James, je sais pas si c'est un artiste qui te touche particulièrement, Skip James.
J'adore Skip James, et il me fait peur en même temps. C'est quelqu'un que j'ai du mal à m'approprier.
Avec sa voix aiguë, là, flûtée un petit peu.
Là. Comment tu peux faire? Tu peux pas chanter mieux que Skip James, c'est pas possible.
Non, mais voilà, il s'agit pas forcément de faire mieux, mais peut-être de payer un tribute ou de... Je sais pas.
Je travaille régulièrement, ça viendra peut-être un jour sur scène, je travaille part-time Kenningford.
Ah oui, ben voilà,
on est dans le lourd.
Je sais pas si tu connais la version d'Arnaud Fradin de Hard Time Killing Floor, ça c'est quelque
non,
chose.
Non, je la connais pas.
Alors, au niveau de la voix, tu connais Arnaud Fradin
Oui, oui, très bien, oui, je connais très bien. Ouais. Mais moi, la version que je trouve absolument magique.
Casey Blunt, non
ce morceau, c'est Kelly Joffage.
D'accord, Kelly Joffage, qui est un styliste de la slide.
Ah, c'est un rêve, quoi.
Voilà, Casey Blunt en a fait une très très belle aussi. Alors, oui. Ce sont des discussions que tu as parfois avec des musiciens, des gens qui ont la même démarche que toi, c'est-à-dire d'intégrer des reprises à leur répertoire. Est-ce qu'il t'arrive d'échanger avec d'autres artistes, que ce soit dans le milieu des festivals, où on a l'occasion de se parler, ou autre? Est-ce que tu fréquentes beaucoup de musiciens français d'abord?
Les musiciens français, j'ai beaucoup de copains, j'ai la chance étant à Issoudun déjà, on a un festival international de guitare, je vais aussi régulièrement à Stafford, au rendez-vous de guitare de Stafford, donc j'ai la chance de rencontrer et de connaître personnellement un peu la crème de la guitare acoustique en France, quoi. Mmh. Et parmi eux, j'ai des vrais, vrais amis. Et donc, c'est vrai qu'on échange souvent sur la façon dont on voit les choses. Quoi.
Et donc ça, c'est quelque chose qui fait évoluer ton ouverture, ton approche de la musique?
Oui, totalement. Totalement, parce que je suis passé du stade d'apprentissage mimétique à maintenant... J'écoute une chanson, je la travaille un petit peu, et j'essaye de la faire mienne.
Et tu te l'appropries.
Ce que j'ai appris pendant 35 ans, 40 ans, et puis de faire en sorte que ça me plaise, le résultat me plaise à moi. Mmh. Et c'est pour ça que je joue pas toutes les chansons. Il y en a que j'arrive pas à comprendre, puis qu'il y en a d'autres, et ben j'y arrive, et puis voilà quoi.
Au fil des concerts, au fil des années, le répertoire continue à évoluer. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as complètement laissé tomber depuis quelques années? Ou est-ce que tu reviens toujours régulièrement, assez brassé?
Alors, est-ce que j'ai quand même, par rapport au début de ma carrière, j'ai laissé tomber progressivement tout le côté blues rock.
Ouais,
tu vois.
Ouais,
j'étais fan, on s'est connu à cette époque-là, j'étais fan de Steve Ray Vaughan.
Ah on a buffé ensemble sur des trucs comme ça.
On a buffé ensemble là-dessus, on en a bouffé des kilomètres de Steve Ray
Vaughan.
C'était la grande époque des caves des Inels, enfin bref, tout ça. Et je regrette absolument pas, je jouais sur une phrase, je jouais électrique. Et depuis, je suis passé vraiment, pour des tas de raisons, à l'acoustique. Je redécouvre d'autres choses, d'autres sensations, d'autres choses, d'autres envies.
Et donc ce disque-là, qui s'appelle Blue Stories, que tu as sorti il y a quelques semaines, contient 14 titres. Tu avais d'autres choses de prévues pour cet album? Il y avait une possibilité d'enregistrer encore davantage de choses, ou c'est vraiment un best-of du moment?
Moi, je pensais c'était le best-of de ce que je fais sur scène, mais c'est surtout les chansons que je joue dans mon spectacle Histoire de Blues. Et je pensais même pas que j'arriverais à en faire 14. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit, allez, 10, 12. Et puis, en fin de compte, ça s'est tellement bien passé chez Fred Schneider, là, au studio Rétroactive, qu'il m'a mis en confiance. Il m'a dit, Philippe, moi, j'imagine qu'on est au bord du Mississippi, c'est sur ton porche, on entend la rivière, vas-y. T'as qu'à jouer, je t'enregistre. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Philippe, on est en direct et je m'apprête à te poser une question un peu intime. Alors, tu as un joker, hein, si tu veux vraiment pas me répondre, il n'y a aucun souci. On pourra directement passer à la suivante. Je voulais savoir si le fait d'être bien entouré comme tu l'es, avec ta petite femme qui t'aime, c'est quelque chose qui compte vraiment pour ta musique.
Ah, t'es même en dessous de la vérité, parce que, comment dire, ce disque-là, sans Cathy, n'existerait pas. J'ai eu la chance... Après toutes les galères que j'ai eu la chance d'avoir eu une petite rentrée d'argent. Ouais. Et Cathy m'a dit très sérieusement, j'étais en train de conduire, elle m'a dit, ce serait bien que tu fasses un autre disque. Et puis je me suis dit, elle a arrêté pas de me dire, elle m'a dit, vas-y, fais un disque, c'est le moment. Tout compte fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, c'est le disque du renouveau, c'est... Tu vois, j'en ai parlé avec Buck Langlois.
Oui, d'accord.
En fin de compte, qui a eu les mêmes problèmes que moi. Ouais. Et qui s'en est très bien sorti aussi. Et en fin de compte, c'est des disques qui pour nous sont... c'est pas pour montrer seulement ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire, mais c'est un cornerstone, tu vois, une borne.
C'est un enregistrement thérapeutique un peu, non?
C'est thérapeutique et c'est en même temps une marque de notre passage, quoi. Voilà, on est revenu.
Ça faisait longtemps que tu n'avais pas enregistré précédemment à Blue Stories.
Mon premier, c'était Coom, là, que je t'avais montré quand j'avais joué au Subok.
Ouais,
je l'avais enregistré, il était sorti en 2014.
2014, donc ça fait 5 ans,
c'est un
bon rythme. Tu te souviens du groupe dont tu avais fait la première partie, un groupe hollandais là, qui était
superbe.
Ouais, Little Steve, exactement.
Oh, qu'est-ce qu'il joue bien.
Philippe, c'était un grand plaisir de parler avec toi à nouveau. Et puis, on va écouter un autre titre. Est-ce que tu aurais un morceau à proposer aux auditeurs, quelque chose qui tient à cœur? On a passé tout à l'heure Let the Midnight Special.
J'en ai deux qui me tiennent à cœur et c'est toi qui vas faire le choix.
Dis-moi.
Le premier, c'est ma version de Encore de Led Belly de In the Pines à la 12 cordes, parce que je trouve que ce morceau, il est hanté. Et le deuxième choix, c'est toi qui fais choix, c'est le dernier morceau de Big Ass Blues, qui est vraiment le morceau que j'ai composé en hommage à Alain Giroux. J'ai commencé ma carrière avec un maître. J'ai eu la chance que ce maître devienne un ami, et qu'à la fin de sa vie, c'était presque comme mon grand frère, tu vois.
Alain Giroux, oui.
Plus qu'ami, il m'a légué sa guitare. Sans Alain Giroux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui.
Alain Giroux, qui a longtemps joué avec Jean-Louis Majol et qui a terminé sa carrière avec Jean-Marc Hainaut, l'harmoniciste, l'ancien harmoniciste de Shaky Rips. Bel hommage. On va pas choisir, Philippe, on va écouter les deux. Hein.
C'est gentil, merci.
And the Pines et puis Big Al's Blues. Merci à toi, Philippe, pour tout ça. Parce que, une interview en direct, c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours facile. Mais là, avec un bon client comme toi, qu'est-ce que tu veux? Ça peut être gagnant. Merci, Philippe.
Merci
à très
beaucoup.
Bientôt.
Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
In the Pines, extrait de cet album de Philippe Caro, Blues Stories.
In the pine, where the
never sun, don't never shine. I shiver the whole night through. A father he was, a railroad man. He lived upon a mile from here. His head was found on a driving wheel, but his body was never found. Black girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows.
In the Pines, extrait de Blue Stories par Philippe Pierrot. C'est la fin de cette première heure de Sweet Home Chicago. On se retrouve dans quelques secondes avec Jean-Pierre Vignola.